France Culture.
Parce qu'enfin, il y a une campagne orchestrée. Elle est visible, l'aurore. Et le Figaro dit à l'égard du Parti communiste français, vous êtes des traîtres. Des traîtres à la nation.
Ensuite, leur argument principal. C'est une préoccupation par rapport à...
Les voix du PCF, archives sonores du communisme français.
Enfin, pour demander une constituante.
Un documentaire d'Anne Toscane Judès, réalisé par Anne Fleury.
Camarade va décrocher, a souligné que sur le fond des problèmes posés, Marcel Cervin et Laurent Casanova maintenaient leur divergence.
Je crois que ceci n'est pas la défense d'une position opportuniste, mais au contraire du maintien de la ligne qui a été la nôtre pendant des années et qui est encore valable, même si des éléments gauchistes veulent essayer de nous la faire gauchie.
Premier épisode, 40 ans d'enregistrement.
Une chose pénible pour nous, une fin de session du comité central sans le discours de clôture de Maurice Thorel.
Jacques Duclos, 1950.
Et je sais très bien, et vous le savez aussi bien que moi, que le discours qu'aurait prononcé Maurice ne sera pas remplacé. Avant d'aller plus loin pour tirer quelques conclusions des traces de nos travaux, je veux signaler au comité central qu'un camarade est absent, c'est le camarade Marcel Paul. Il ne s'est pas fait excuser, et comme ce n'est pas la première fois qu'il manque aux sessions, aux séances du comité central, j'ai voulu vous en informer. Ceci dit, je crois qu'on peut dire de cette session du comité central qu'elle est particulièrement utile parce qu'elle nous place tous devant nos responsabilités et elle nous aide à voir les faiblesses et les insuffisances qu'il y a dans notre travail. La ligne du parti est juste. Chacun de nous le sent, le comprend. Elle est prometteuse de très grands succès. Seulement, il faut qu'elle soit appliquée par nous et qu'elle soit appliquée correctement.
À partir de 1952 et jusqu'en 1994, le Parti communiste français enregistre chacune des réunions du comité central. Fil d'acier, bobine, CD puis fichier numérique représentent plus de 2000 heures d'enregistrement sonore qui couvrent 40 années de vie politique. Du sortir de la Seconde Guerre mondiale à la fin de la guerre froide, le PCF évolue. Et après avoir été le premier parti de France, il amorce un déclin à compter du mi-temps des années 1980. On y croise les chefs, Maurice Thorez, Valdecrochet, Georges Marchais, Robert Rue, Marie-Georges Buffet, mais aussi Louis Aragon, Marie-Claude Vaillant-Couturier ou Louis Althusser. On y entend parler de déstalinisation et de titisme, de la guerre d'Algérie et de mai 68, du programme commun et de la chute du mur. Ces enregistrements augmentent les rapports écrits issus des mêmes réunions et nous offrent une véritable plongée au cœur du parti. Ces centaines d'heures ressuscitent des atmosphères et des langages qui auraient normalement dû rester dans le secret du huis clos. Confiés aux archives départementales de Seine-Saint-Denis à Bobigny en 2003, ces milliers d'heures d'enregistrement représentent un fond unique dans le paysage politique et archivistique français. Bonjour, Aurélien Dur et Pierre Boichu. Nous sommes aux archives départementales de la Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce lieu ?
Donc vous êtes dans la préfecture de la Seine-Saint-Denis, à Bobigny, et plus spécifiquement dans un service du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Ce service a vocation à accueillir essentiellement des archives publiques, c'est-à-dire des archives des services déconcentrés de l'État et des archives des services du conseil départemental, mais a développé depuis le début de son existence. Rappelons que le département de la Seine-Saint-Denis est un département récent qui date des années 1960. Donc ce service d'archives, avec le temps, a développé une collecte spécifique d'archives privées.
La création de ce service d'archives se fait avec peu d'archives anciennes, du fait de la jeunesse de ce département. Et donc, le choix va être fait assez tôt, dès la fin des années 80, puisqu'il y a peu d'archives et un nouveau bâtiment et un service avec un bâtiment qui a vraiment, à l'époque, beaucoup de place. On va faire le choix, notamment, d'aller vers une collecte de ce qu'on appelle à l'époque des archives nouvelles. Et dans les archives nouvelles, ça inclut les archives audiovisuelles et les archives également photographiques. On parle de fonds figurés, cartes postales, affiches, etc. Et donc, la volonté à ce moment-là est d'aller vers la collecte de ce type de documents qui sont donc du son, de la vidéo et du film.
Et lorsque les députés socialistes ont applaudi hier main d'estrange, eh bien, il y avait, on sentait chez eux comme l'écho de la protestation qu'ils sentent à la base de leur propre parti. Cela signifie qu'il y a pour nous d'immenses possibilités de rapprochement avec les travailleurs socialistes.
Donc sont conservés environ 28 km d'archives. Cette politique d'archives privées développée dans les années 1980 est assez originale, en ce sens qu'elle s'est dans un premier temps concentrée sur les archives de ce qu'on appelait le mouvement ouvrier à l'époque, qu'on appellerait davantage aujourd'hui le mouvement social, et sur l'impulsion de différents conservateurs qui se sont succédés, Georges Mouradian, Agnès Magnin, Christian Petit, Guillaume Naon, aujourd'hui Christine Langer. Il y a toujours eu donc un accent, une sensibilité un peu particulière à la fois au territoire, qui est un territoire qu'on qualifiait de banlieue rouge à une époque, qui intégrait cette ceinture parisienne très marquée par l'industrialisation et par le mouvement ouvrier et ses organisations, que ce soit les syndicats, les partis ou les associations périphériques. Donc les archives départementales ont eu à cœur de collecter des archives qui n'étaient pas strictement administratives. Et parmi cet ensemble de fonds qui ont été déposés ici, se trouve le fonds du Parti communiste français et notamment des enregistrements sonores dont nous allons parler aujourd'hui.
Aurélien Duron, dans ce hall, il y a aussi une maquette. Vous pourriez nous la présenter ?
Donc ce qu'on voit, c'est trois tours. Une de 12 étages, une de 11 étages et une de 10 étages. C'était un choix fait par l'architecte pour donner une sensation un petit peu de perspective. Et à l'arrière du bâtiment, toute la partie administrative. Juste pour précision, ce bâtiment a vraiment été pensé au départ pour séparer. Les tours, on a vraiment affaire à des silos. Donc vraiment la volonté de séparer les espaces de conservation et tous les espaces techniques, notamment pour les ascenseurs, l'eau, l'électricité, pour protéger au maximum les archives. L'idée, c'est d'essayer d'obtenir au départ une hygrométrie constante tout au long de l'année, et même chose pour la température. Et en général, on va viser des températures qui ne dépasseront pas les 18-20 degrés et 50% d'humidité relative. Après, pour certains supports spécifiques, et je pense notamment à l'audiovisuel, il y a des magasins qui sont équipés spécifiquement pour des conditions de conservation un peu plus strictes. Je pense notamment à la pellicule film. Ces supports-là sont beaucoup plus sensibles aux variations et surtout à une hygrométrie, à une humidité qui serait trop importante.
Pierre Boichu, comment expliquer que les archives du Parti communiste français ne se trouvent ni place du colonel Fabien, ni aux archives nationales, mais que ce soit aux archives départementales de Seine-Saint-Denis ?
La spécialisation dans la gestion des archives audiovisuelles a fait que le Parti communiste à l'époque, confronté à des difficultés pour lire des supports spécifiques d'enregistrement audiovisuel, s'est rapproché en 1993-1994 des archives départementales pour opérer des descriptions et des évolutions de supports, notamment de bobines à fil, qui étaient illisibles par le Parti communiste français. C'est à la même époque que le Parti communiste français décide en interne, c'est-à-dire place du colonel Fabien, d'ouvrir en 1993 et suite à une décision de Georges Marchais et donc du Parti communiste qu'il incarnait, d'ouvrir ses archives à la recherche dans un premier temps, aux lecteurs, aux scientifiques essentiellement des universitaires, autorisés à le faire. C'était pas encore une ouverture publique. Dans la dizaine d'années qui suit, la réflexion évolue. Le Parti communiste français est confronté à un certain nombre de difficultés électorales, de revers électoraux aussi. Donc il y a un affaiblissement de l'organisation. Et une question qui se pose de plus en plus complexe, c'est celle de la gestion de ces archives internes. Donc il y a une réflexion qui est menée par un groupe à la fois politique, mais aussi composé d'archivistes et d'historiens, qui réfléchit à transférer ce patrimoine au service public. Les archives nationales, au début des années 2000, ne sont pas forcément en capacité d'absorber cette masse documentaire. Les archives départementales de la Seine-Saint-Denis ont déjà cette teneur de centre ressources en matière d'archives du mouvement ouvrier. Donc, un rapprochement se confirme. En 2003 est signé le classement des archives du Parti communiste français, est signé une convention de dépôt, et à partir de 2004, on va mettre les moyens pour opérer un transfert du fonds depuis les magasins ou les bureaux de la place du colonel Fabien jusqu'à Bobigny aux archives départementales, le corollaire étant que désormais les archives seraient ouvertes, et tout ça est signifié dans une convention de dépôt, un contrat de dépôt, que les archives seraient ouvertes à toute personne qui en souhaiterait la communication. Donc il n'y avait plus d'autorisation préalable ou de justificatif universitaire à fournir, et voilà.
Frédéric Genevet, historien.
J'ai été responsable des archives du PCF du début des années 2000 jusqu'en 2017, je crois, pendant une quinzaine d'années en fait. Et je le suis devenu parce que en fait je cochais plusieurs cases, on va dire. Bon, d'abord j'étais communiste depuis très longtemps. Depuis le lycée, depuis les jeunesses communistes. J'étais membre depuis 2000 du Conseil national du PCF, donc de sa direction. Et par ailleurs, j'étais enseignant d'histoire, j'étais agrégé, et j'étais enfin de rédaction de ma thèse. Donc tout ça s'est conjugué pour qu'on me propose pour devenir responsable des archives du PCF. Et par ailleurs, à peu près au même moment, je devenais président du musée de l'histoire vivante qui se trouve à Montreuil, qui conserve aussi des archives qui ont un rapport avec le PCF, notamment les archives de Jacques Duclos, une partie des archives de Jacques Duclos. Et donc c'est Francette Lazare qui est à l'origine de l'ouverture des archives, et Michel Dufour qui était l'ancien secrétaire d'État au patrimoine pendant le gouvernement de la gauche plurielle, qui m'ont demandé de prendre cette responsabilité. Au début, ça m'a fait un peu peur, mais je me suis lancé.
Et en quoi consistaient exactement vos fonctions?
Alors moi, je suis de formation historienne. Je suis pas archiviste. Alors évidemment, j'ai acquis quelques compétences en la matière pendant ces 15 ans, mais j'avais la responsabilité politique. J'avais la responsabilité des archives et de la mémoire du PCF. Et d'ailleurs, à ce titre, j'ai ensuite été élu à l'équivalent du bureau politique, donc au comité exécutif national, pour être en charge donc des initiatives mémorielles, historiennes, et puis s'occuper beaucoup des archives.
Une des caractéristiques des archives du Parti communiste, c'est qu'elles sont très plurielles et elles sont aussi assez peu centralisées. Même aujourd'hui, elles sont réparties entre plusieurs fonds et plusieurs lieux.
Oui, alors il faut s'enlever de l'esprit que ces archives sont bien organisées, hyper centralisées. En fait, aujourd'hui, le tableau, la géographie des archives du Parti communiste, c'est la conséquence de l'histoire du Parti communiste. Or, ce parti, il a plus de 100 ans. Donc vous imaginez bien que les archives, elles ont eu une histoire romanesque, chaotique, et donc on les trouve un peu partout. Donc l'essentiel des archives de direction se trouve maintenant aux archives départementales de la Seine-Saint-Denis, à Bobigny. Il y a une partie qui est restée place du colonel Fabien, notamment tout ce qui est biographie, c'est-à-dire dossier sur les cadres et les militants du PCF. Mais vous avez aussi des archives, vous avez des archives des fédérations qui sont soit dans les sièges de fédération, soit aussi déposées dans les archives départementales dans toute la France. Vous avez d'autres centres, je pense par exemple à Sciences Po, ou même évidemment aux archives nationales, qui détiennent des archives de militants qui ont eu des responsabilités nationales. Ou une autre possibilité, c'est que on n'est pas toujours communiste toute sa vie. Et si jamais on a quitté le PSF, par exemple, sur la base de désaccords politiques, peut-être qu'on va pas vouloir les déposer place du colonel Fabien, ce qui est assez logique, et qu'on va prendre contact directement avec d'autres institutions. C'est le cas, par exemple, des archives de Charles Tillon qui sont à Sciences Po. J'oublie évidemment un lieu important, on va y revenir. Il y a des archives du Parti communiste français à Moscou.
Alors, les archives du Parti communiste sont multiples. D'abord, ce sont les archives de l'organisation en elle-même, donc du parti allant de la section française de l'Internationale communiste à ses débuts.
Jean Vigreux, professeur en histoire contemporaine.
1920, suite du congrès de Tours.
À l'université Bourgogne-Europe.
Jusqu'à nos jours. Donc c'est un fonds exceptionnel. Alors ce fonds, bien sûr, il est constitué de différents rapports, de différents types d'archives. Pour l'entre-deux-guerres, c'était essentiellement les rapports qui étaient envoyés à Moscou, qui ont été conservés par les Russes. Bon, c'était, comme disait Nicolas Werth, la société du rapport. On avait de nombreux rapports qui montaient de la cellule au centre et puis du centre parisien et qui allaient ensuite à Moscou. Donc ça, c'est pour l'avant-guerre. Et puis, l'après-guerre, à partir de 1945, les archives, eh bien, elles étaient conservées au siège du Parti communiste, place du colonel Fabien. Et puis l'ouverture de ces archives, véritablement, aux chercheurs, date du début des années 90. Alors, à titre d'exemple, désolé de faire de l'égo-histoire, mais moi, j'étais en DEA à Sciences Po Paris avec Serge Bersten sur Val-des-Crochets, et c'est à ce moment-là que les archives s'ouvrent et j'ai pu arriver place du colonel Fabien sans montrer patte rouge, rien du tout de ce point de vue-là, et j'ai eu accès à toutes les archives concernant Val-des-Crochets. Et surtout, c'était intéressant parce que Mathilde Angeloni, qui était l'archiviste à l'époque, me faisait confiance et me permettait d'avoir accès à ces archives, et en même temps, moi, je faisais l'inventaire. C'était gagnant-gagnant en quelque sorte, et on faisait un inventaire Word, et puis après, on a été un peu plus précis sur les inventaires. Et tout ça a été déposé ensuite aux archives de Seine-Saint-Denis. Mais ça, c'est une partie des archives. Parce qu'il ne faut pas oublier que si ce sont les archives de l'organisation d'elle-même, il y a aussi des archives de dirigeants. Et les archives Maurice Thorez, elles sont aux archives nationales. Et ça, il faut les compléter les unes avec les autres. Parce que Maurice Thorez, bien sûr, c'est important dans l'histoire du Parti communiste. C'est plus de 30 ans à la direction du parti. Et surtout, il prenait des notes au bureau politique. Donc, vous voyez, dans les archives, il n'y a pas que celle de l'organisation, il y a celle aussi des dirigeants. Donc, voilà à peu près l'horizon de ces archives.
J'avais entendu les explications de notre camarade. Je mets aux voix la proposition qu'il vient de faire au comité central. Que ceux qui veulent bien l'adopter, veulent bien lever la main. Baissez les mains, camarades. L'avis contraire, il n'y en a pas. La résolution est acceptée. Je donne la parole à notre camarade Raymond Guyot.
Pierre Boichu, est-ce que vous pourriez nous décrire les différents types d'enregistrements que recouvrent ces fonds sonores? Qu'est-ce qu'on enregistre?
La masse peut-être la plus importante, ça a été ces fameux comités centraux, ces réunions du comité central. Donc on enregistre les réunions du comité central et on enregistre beaucoup de réunions de travail aussi. On enregistre des congrès, non pas dans leur intégralité, mais de manière non exhaustive selon moi. Les grands discours peut-être, le discours de clôture. On enregistre également les cours, ce qu'on appelait l'école centrale du Parti communiste, qui était l'école de formation, qui est créée dès les années 1920 et qui disparaîtra dans les années 1990. Alors on enregistre aussi, dans un but de propagande, on enregistre des disques de discours depuis l'entre-deux-guerres, mais aussi dans l'après-guerre, d'un certain nombre de dirigeants communistes.
Les archives audiovisuelles font partie d'un ensemble, justement du fait du support qui, dans l'histoire de l'archivistique en France, donc du rapport que peuvent avoir les archivistes aux documents, a beaucoup évolué. On avait souvent tendance à considérer que certaines institutions spécialisées, comme l'INA, comme la BNF, pouvaient avoir un rôle particulier pour la préservation de ce patrimoine-là. Mais par contre, dans le réseau archivistique en France, Je pense aux archives nationales, mais je pense au réseau des archives départementales ou des archives des communes. Les documents audiovisuels n'étaient justement pas des archives. C'était des documents qui étaient là à côté, qui pouvaient potentiellement être intéressants, mais peu ou pas traités et ou considérés comme des archives en tant que telles. Et il faut attendre justement ces lois 1979 et surtout les lois postérieures pour qu'on prenne pleinement conscience de leur valeur et de leur rôle en tant que document unique ayant une valeur probatoire ou ayant en tout cas une valeur patrimoniale à l'identique des archives dites papier. Et cette évolution, elle est arrivée assez tard et elle se manifeste même au niveau professionnel. On voit que très peu de collègues sont formés à la gestion, à la description des archives audiovisuelles. Il faut attendre les années 2000 pour voir arriver une nouvelle génération d'archivistes qui commence à dire « Ah mais on a des cassettes ». Vidéo, on a des films, les institutions dont on est en charge de préserver les archives produisent ce type de documents également. Ça arrive dans nos services et pour autant, on ne sait pas trop comment les traiter. En plus, les normes, les pratiques archivistiques, les pratiques des collègues font que c'est pas simple à manipuler. Ça se manipule pas intellectuellement exactement de la même façon qu'un dossier administratif. Et donc là, il y a toute une réflexion qui a commencé à voir le jour et qui a vraiment pris de l'essor à partir des années 2010. Et maintenant, on voit qu'il y a vraiment une prise en compte des enjeux et de la spécificité de ces supports-là et de ce matériau-là dans la communauté des archivistes.
Camarades, je suis chargé de présenter rapidement au comité central les propositions de la commission centrale de contrôle politique qui se trouve concrétisée.
Léon Fex. Bientôt interrompu par Maurice Thorez, 21 novembre 1956.
Et moi, je demande la parole. Moi, je demande que les décisions du comité central viennent à la conclusion de nos travaux. Je ne sais pas comment les choses sont. Ce sont des décisions que doit prendre le comité central. Je suppose que devraient venir, après toutes les discussions, les diverses conclusions, décisions du comité central, résolutions, etc. Alors, au nombre de ces décisions, il y a celles qui concernent les propositions de la Commission centrale de contrôle. Voilà, c'est pas pour t'empêcher de parler, mais je pense qu'il vaudrait mieux que le. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'il y ait d'abord une discussion politique.
Chers camarades, je veux d'abord dire mon accord total avec le rapport qui a été présenté par le camarade Raymond Guyot.
Quand j'étais petite, jeune fille même, quand je pensais, enfin, souvent quand je me baladais dans une ville,
Zoé Grimbert,
je me
historienne.
Projetais, un de mes rêves, c'était de me dire, ce serait génial de pouvoir être projetée des centaines d'années auparavant, ici, maintenant, là, par exemple, à un marché pendant, au Moyen-Âge. Et en fait, qu'est-ce qui me venait à l'esprit? J'étais pas historienne, j'étais jeune fille. Ce qui me venait à l'esprit, c'était d'abord les odeurs, les sons, les manières de parler, les accents des gens. Et donc, mon entrée dans l'histoire, elle a été par le sensible. Et ça, c'est vrai que dans ma pratique d'historienne, c'est quelque chose que j'ai pas toujours peut-être assumé, en fait, au début, parce que quand on est jeune historien, jeune historienne, on rentre un peu dans des, dans un moule, en quelque sorte. C'est-à-dire que faut bien comprendre que l'histoire, en tant que discipline historique, elle s'est forgée, elle est devenue scientifique à la fin du 19e siècle, sur la base de l'archive écrite. Cette archive écrite, elle peut nous permettre de sortir énormément de sensibles, et maintenant il y a beaucoup d'historiens du sensible, mais je pense que l'oralité, en particulier sur des archives qui peuvent paraître très sèches, des archives politiques, qu'on tend à caricaturer, c'est-à-dire que l'histoire politique n'a pas forcément le vent en poupe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voit un peu ça comme une histoire à la papa. Et en fait, ces archives-là, elles peuvent permettre de faire une histoire sensible du politique. Et c'est, je pense, un des apports qui, moi, dans ma sensibilité d'historienne, en tout cas, me parle beaucoup.
Vous pensez qu'il y a un mépris encore envers l'utilisation des sources audiovisuelles? Qu'est-ce qui explique que ces sources orales, elles ne soient pas davantage mobilisées par les chercheurs et les chercheuses?
Mépris, je dirais pas ça comme ça. L'histoire orale s'est quand même développée il y a longtemps, hein. C'est-à-dire que dans les années 60 en France, il y a un historien, Philippe Joutard, qui a vraiment développé l'histoire orale. Donc quand je dis histoire orale, c'est pour mettre l'accent vraiment sur la pratique, c'est-à-dire le fait qu'il est allé interroger des gens pour créer des sources orales, ou ce qu'on appelle des archives orales. Il a développé ça, mais il était minoritaire. Et il a fallu du temps, effectivement, pour que ça se développe dans la profession, pour des questions souvent assez scientifiques, en fait, qui consistaient à dire que c'était des sources avec énormément de biais. Mais en fait, toutes les sources ont des biais, et la source orale n'a pas plus de biais qu'une autre source. Donc, c'est plus une méfiance qu'un mépris. Ça peut être aussi une question de temps. Et entre, par exemple, travailler la source orale d'un compte-rendu du comité central ou la source écrite, ce qui va plus vite, c'est la source écrite. Parce qu'on lit plus vite que ce qu'on entend. C'est un travail différent auquel on n'est pas toujours formé, déjà, il faut le savoir, à l'université. Moi, j'ai eu la chance d'être formée en master. J'ai eu un cours d'histoire orale, et on a eu une pratique, etc. C'est pas le cas de tout le monde. Donc il y a ce temps, une habitude aussi, qui fait que le papier paraît plus évident.
C'est que nous avons eu déjà des discussions à l'intérieur du comité central, notamment dans la dernière séance du comité central.
Maurice Thorez, 23 mai 1960.
Et il me semble qu'on ne peut pas aussi facilement, comme fait Pronto, venir et dire « Eh bien, c'est entendu, cette phrase est erronée, elle est dangereuse, mais n'en tirons pas plus, c'est fini. » Non, non. Nous sommes le comité central et des hommes politiques très responsables. Et il faut essayer de comprendre et de voir. Et si Pronto n'a pas pu jusqu'alors le comprendre par lui-même, il nous faut nous essayer, nous efforcer d'aider à le lui faire comprendre. Est-ce qu'on peut admettre comme fortuite cette phrase dans l'éditorial, alors qu'elle se trouve, vous le voyez, en rupture même avec l'exposition des faits telle qu'elle est présentée dans l'économie politique.
Pierre Boichu.
Le comité central est considéré comme l'organe dirigeant du Parti communiste entre deux congrès. Ce comité central réunit des membres élus par les congrès qui doivent être représentatifs, non seulement géographiquement représentatifs, mais aussi sociologiquement selon la conception que le parti a de lui-même d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre ouvriers, paysans, intellectuels, enseignants, qui sont très nombreux au Parti communiste à l'époque. Le comité central compte aux alentours d'une centaine de membres, un nombre qui va singulièrement augmenter avec le temps.
Chaque réunion du comité central a un ordre du jour. Donc on suit en général l'ordre du jour. Et pour pouvoir intervenir, il faut s'inscrire. Donc la prise de parole impromptue pour couper quelqu'un, et ça se fait pas. Ça se fait pas. Sauf si on a le capital politique qui le permet, et donc le secrétaire général peut interrompre quelqu'un qui est en train d'intervenir.
Mais il y a une explication que nous essayons de donner. Il faut juger de cette phrase en liaison avec des appréciations antérieures.
Le comité central, c'est une forme de rituel introduit par un rapport d'un membre du bureau politique en général, avec un ordre du jour, un rapport introductif et une succession de prises de parole et, le cas échéant, le vote d'une résolution, pas à bulletin secret, on va dire, hein. C'est un vote symbolique, avec une grande pratique de l'unanimité pendant des dizaines d'années. Et ce qui est particulièrement sensible, notamment à l'occasion, par exemple, d'élections, c'est le rituel de l'autocritique. L'autocritique devant le comité central en disant les résultats ne sont pas bons, nous avons mal appliqué les décisions du congrès, on reconnaît des fautes dans l'application. Donc là, il y a une espèce de rituel symbolique assez prégnant. Mais c'est aussi également le cas dans les moments de tension, où les désaccords, pour les comprendre, il faut avoir une grille de lecture à plusieurs niveaux. En gros, on rentre en désaccord tout en exprimant son accord.
Le comité central est censé être l'organisme de direction du PCF. En fait, les comités centraux sont pas véritablement des organismes qui prennent des décisions. Formellement, oui. Mais en général, ils avalisent les décisions qui ont été prises au bureau politique ou au secrétariat. Mais ils ont une fonction, c'est, je dirais, une fonction de communication, d'abord, pour faire descendre les décisions. Une fonction de contact entre les dirigeants. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont décidées en dehors de la réunion elle-même, au moment du repas, au moment du café, dans les couloirs. Vous imaginez bien que, au moins jusqu'à l'invention du TGV, les membres du comité central se voient peu. Et donc, quand il y a une réunion, c'est un moment où on va sortir les agendas, prendre des décisions, etc. Et c'est aussi, à mon sens, et ça va l'être de plus en plus au fil des années, un lieu de régulation. C'est-à-dire que le comité central va avaliser, en gros, les décisions prises au bureau politique, mais avec des petites nuances. Et la direction peut sentir ce qui se passe dans le parti via ces réunions. Pas pour être contredit, rarement, mais pour prendre le pouls du parti dans sa profondeur, parce que les membres du comité central, ils viennent des fédérations, et en plus ne siègent pas au comité central que les membres du comité central. Il y a aussi, il peut y avoir des invités, des collaborateurs, des parlementaires, qui sont pas formellement membres du CC, comme on dit dans le langage communiste. Et donc tout ça permet une régulation du fonctionnement.
Donc si l'on suit le parcours des archives, vous avez en face de vous le quai de déchargement.
À première vue, un parking. Est-ce que vous pouvez nous décrire cet espace et sa fonction ?
Oui, alors le quai de déchargement, c'est où arrivent les véhicules qui viennent transférer des archives, je le rappelle, soit les archives publiques, soit les archives privées. Nous sommes dans une première salle qui est la salle où vont être évaluées les archives et notamment leur état sanitaire. Avec potentiellement des infections, des champignons. Donc il va y avoir une analyse de l'état sanitaire des documents, leur mise en quarantaine le cas échéant. Et sur votre droite, vous apercevez la salle du pilon, où sont stockés des documents qui ont vocation à être détruits, puisque en particulier en archives publiques, plus de 90% de la production des services administratifs sont détruits. Leur sort final n'est pas de devenir des archives historiques. Alors là, vous voyez dans ce petit espace des collègues en train de trier des plans qui proviennent d'un service du conseil départemental. Et les archives privées, donc les archives du Parti communiste en particulier, vont suivre un chemin légèrement différent puisqu'ils vont rejoindre la salle de tri. Moi, j'exerce personnellement. Voilà, et c'est là que vont être analysées, puis classées les archives. Et donc là, vous apercevez un fonds en cours de traitement. C'est aussi un moment où peuvent être exhumés des documents audiovisuels que je transmettrai à mes collègues compétents pour leur classement. Je peux, par exemple, exhumer au sein d'une boîte, sans savoir exactement de quoi il s'agit, une bobine que je vais transmettre le plus tôt possible à mon collègue Aurélien Dur, qui pourra m'expliquer. Alors, on sait que ça se passe à la salle Pleyel le 18 janvier 1952, mais je ne sais pas de quoi il en retourne, puisqu'il s'agit d'une bobine à fil que je ne peux pas écouter personnellement. Et je vous laisse me suivre.
Alors Aurélien Dur, Pierre Boichu, nous avons quitté le rez-de-chaussée en prenant un ascenseur qui nous a conduit au 10e étage. Est-ce que vous pouvez nous dire où nous sommes ?
Alors là, donc, nous sommes dans un des magasins de la Tour B au 10e étage. Et donc c'est un des magasins dans lesquels, ici, on va spécifiquement conserver les archives audiovisuelles, mais pour certains supports spécifiques. Les supports magnétiques, donc tout ce qui est cassette vidéo, cassette audio, bande son, également les disques, ou notamment également c'est tout ce qui est CD, DVD, etc. D'un côté du magasin, nous allons avoir plutôt tout ce qui est vidéo. De l'autre côté, nous avons là par contre tout ce qui est plutôt support sonore. Et enfin, quand même, il faut préciser également que nous avons une armoire dans laquelle, là, on va stocker de la bande magnétique, mais pour la sauvegarde des fichiers. Puisque aujourd'hui, un travail important des archivistes audiovisuels, mais pas que, hein, qui concerne tous les archivistes, est celui de la numérisation pour préserver et pour rendre les documents communicables.
Est-ce que la numérisation implique parfois la destruction d'un support physique ?
La grande majorité des archives que nous conservons ici, ce sont des archives des fonds privés. Et donc, nous ne détruisons pas les fonds privés. Nous ne détruisons quasiment jamais les supports originaux. Puisqu'on peut toujours espérer qu'avec les progrès technologiques, on peut espérer pouvoir revenir sur un document et le renumériser.
Alors, dans ce magasin, il y a un fonds d'archives qui nous intéresse tout particulièrement, celui des enregistrements sonores des réunions du comité central du Parti communiste français. Et les supports originaux sont ici. Est-ce que vous pouvez nous les montrer ?
Il faut quand même, première chose, préciser de quel type de support nous parlons. Les enregistrements des séances du comité central ont été faits sur plusieurs types de supports. Tout d'abord, de la bobine à fil de 1950 jusqu'à 1958. À partir de 1958, on va passer sur de l'enregistrement sur de la bande magnétique dite quart de pouce, donc qui va être utilisée jusqu'à la fin des années 80. Et à partir de 1990 ou 1991, on va passer sur de la cassette audio. Donc on conserve l'intégralité de ces supports-là et je peux peut-être effectivement montrer... Deux bandes magnétiques ici de marque Sonolor sur lesquelles sont enregistrées. Bah ici, nous avons par exemple une intervention de Maurice Thorez sur cette bande. Chaque support porte une cote qui identifie le caractère unique de ce document qui va permettre de pouvoir ensuite le retrouver. Pour les archives audiovisuelles, comme pour les collègues traitant des fonds papier, on utilise également le principe du mètre linéaire. On compte, on calcule les archives par mètre linéaire, même si c'est moins parlant, néanmoins ça permet de gérer les espaces.
Mais en termes de volume, notamment de volume horaire, que représentent ces enregistrements sonores des réunions du PCF ?
Alors, les enregistrements des séances du comité central représentent au total pour la période qui va de 1950 à 1994 environ 2500 heures d'enregistrement et pour l'instant ont été rendus disponibles en ligne sur notre site internet 630 heures qui couvrent la période 1950-1968. Je précise néanmoins que le reste de la période postérieure qui va donc de 1969 jusqu'à 1994 est consultable en salle de lecture. Dans cet espace, on voit une armoire qui nous permet de présenter les typologies de supports avec tout en haut du matériel dans l'univers de la pellicule film.
Aurélien Dur.
En bas, nous avons plutôt du matériel autour du monde de la vidéo. Et également, on peut voir au centre de la vitrine des supports audio avec une bande quart de pouce, une cassette audio, exactement les types de supports sur lesquels sont enregistrés une partie des séances du comité central et surtout, évidemment, le clou pour nous du spectacle, on va dire, une bobine à fil présentée avec son appareil de lecture. Son appareil de lecture qui a été utilisé à l'époque, qui a été utilisé pour faire les transferts, pour sauvegarder les documents.
C'est un support qui vous a posé de vrais défis en matière de conservation, de restauration et même de lecture du support.
Alors tout à fait, donc le support bobine à fil est effectivement moins connu, pourtant il a été beaucoup utilisé, donc il est commercialisé à partir de la toute fin du 19e siècle, 1896-97, et utilisé jusqu'aux années 1950. Il se présente sous la forme d'une bobine en acier sur lequel est enroulé du fil, un fil très fin en acier qui peut être magnétisé et qui donc permet de conserver, d'enregistrer une information sonore. En général, quand on le décrit souvent, on nous dit « Ah, ça ressemble à du fil à pêche !» Effectivement, mais là, pour le coup, c'est vraiment du son qui est enregistré dessus. La particularité de ce support, c'est de nécessiter des appareils de lecture qui aujourd'hui ont quasiment disparu. Mon collègue ancien responsable de ce secteur, donc Philippe Malpertu, a pris en charge en 1994 ces premiers supports-là. Il avait pu trouver deux machines, dont en l'occurrence celle qui est présentée aujourd'hui dans la vitrine. Il a fait des tests et les premiers constats ont été à la fois que le son était relativement correct, qu'on arrivait sans problème à accéder à l'information, mais que le support est extrêmement fragile. Il est fragile parce qu'il est cassant. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à concevoir ce travail de préservation de l'information contenue sur le support à travers ce principe de réenregistrement de l'information depuis une bobine à fil vers une bande magnétique.
Dans quelle mesure est-ce que le temps a altéré la qualité sonore de ces supports? Je pense notamment aux plus anciens. Est-ce qu'ils sont toujours audibles? Est-ce que la qualité est la même que si on les avait écoutés en 1950?
Alors, il a finalement assez difficile de répondre, particulièrement pour la bobine à fil. La bobine à fil est au départ un support qui est malgré tout avec des limites physiques, techniques assez importantes. Donc déjà, de toute façon, le spectre sonore enregistré est quand même plus faible que celui de supports plus récents où on a vraiment une amélioration de la qualité et de la capacité à aller dans les basses et dans les hautes fréquences. En plus, il y avait beaucoup d'interférences, donc il est difficile de dire déjà à l'origine, c'est un son qui est très daté.
Est-ce que ce sont des supports qui ont nécessité des opérations de restauration à proprement parler?
Alors, si opérations de restauration il y avait, elles étaient post-copie. Alors d'abord copie analogique, puis ensuite copie numérique. Nous ne sommes pas ici, nous sommes archivistes. Nous avons un certain nombre de compétences techniques qui nous permettent de lire, d'accéder, de comprendre le support que nous allons traiter. Mais néanmoins, nous ne sommes pas du tout des techniciens audio. Donc nous essayons de faire une copie, un transfert, on va dire droit, avec peu finalement de restauration. Néanmoins, pour la bande magnétique, ces supports magnétiques vont être atteints de deux syndromes qu'on appelle le syndrome de la bande crissante et le syndrome de la bande collante. Tout bêtement, la bande colle et devient impossible à relire. Les appareils de lecture n'arrivent plus à entraîner la bande qui devient vraiment, littéralement, très collante. Et pour ça, on va chauffer les bandes, on va les cuire, les chauffer à 50 degrés pendant une quinzaine d'heures pour pouvoir récupérer un état physique antérieur à celui de la dégradation pour pouvoir numériser. Donc dans certains cas, on va pouvoir appliquer ce type de méthode de nettoyage et ou de chauffage de bandes avant le transfert et la copie.
Alors nous proposons d'en rester avec le texte tel qu'il vous est présenté pour l'instant. Excusez-moi, Président, je crois qu'il y a un orateur là-bas au fond.
Au milieu des années 90, nous avons commencé à nous équiper d'enregistreurs sur CD, donc de graveurs de CD, des CD à couche d'or. Et là, on a commencé donc à numériser. Donc là, cette fois-ci, ce n'était plus une copie analogique, mais bien une copie numérique des documents originaux sur CD. À partir de 2010, nous avons commencé à faire de la numérisation pour produire ensuite des fichiers. Et là, pour le coup, ce sont donc des fichiers qui, eux, sont eux-mêmes conservés sur un autre type de bande magnétique qui s'appelle de la LTO, un support de stockage de fichiers. Et la dernière étape a été celle du transfert, de la récupération de tout ce qui était sur les CD, donc qui avait déjà été numérisé sur les CD et qui a également été passé sur fichier, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'ensemble des enregistrements des séances du comité central est conservé sous forme de fichiers numériques, avec deux formats, un format de conservation pérenne à long terme qui répond à un certain nombre de normes et aux pratiques des institutions, notamment la BNF, notamment l'INA, toutes les institutions qui préservent l'information sonore, et une version de consultation, soit accessible en ligne, soit accessible en salle de lecture.
Alors, camarade. Dans les conditions, dans le cadre fixé tout à l'heure, dans l'intervention du camarade Jacques Duclos, nous allons commencer maintenant les travaux du comité central sur la mise au point du projet, de l'avant-projet qui vous est soumis, afin qu'en conclusion, il devienne projet et publié dans l'Humanité.
Vous
Donc également, peut-être juste, on entend très bien le bruit de nos serveurs qui sont reliés à notre lecteur LTO. Donc aujourd'hui, c'est une infrastructure qui nous correspond très bien à nos besoins parce qu'elle permet de conserver des quantités importantes de données. Le secteur des archives audiovisuelles, alors là, on ne parle pas du tout que du comité central, mais plus généralement, conserve aujourd'hui à peu près 160 téraoctets de données, donc vidéos, sons et films, tout ça numérisé. Et donc, ces supports-là, qui sont très capacitaires, permettent de stocker des grandes quantités de données numériques. Donc voilà, c'est une infrastructure qu'on gère en interne. C'est une chance de pouvoir disposer de ce type d'infrastructure pour un service d'archives départementales. C'est pas très courant.
Vous disiez que ces archives étaient publiques et accessibles. Vous pourriez nous expliquer un peu la manière dont on procède si on a envie de venir les consulter, les archives du Parti communiste français ?
Alors, pour ce qui concerne strictement les archives du Parti communiste français,
Pierre Boisch,
pas d'autorisation préalable. La notion de communicabilité, en fait, c'est une notion de temporalité. Le Parti communiste a décidé de fixer un délai de communicabilité des archives à 25 ans. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en 2025, les archives sont accessibles jusqu'à l'année 2000. La convention de dépôt, en revanche, pour le moment, ne concerne les archives du Parti communiste que jusqu'à l'année 1994. Et pour la période qui suit, les documents sont toujours conservés, logiquement, place du colonel Fabien. Donc un lecteur vient, s'inscrit à la borne d'accueil et peut, sans autre forme de procès, consulter tous les documents accessibles en salle de lecture, avec des conditions spécifiques qui touchent à la vie privée pour certains dossiers, ou des conditions précisées pour la reproduction des documents.
Quand moi je suis arrivé en 2003-2004, le délai était de 30 ans, puisque nous avions décidé que les archives du Parti communiste, qui sont pourtant des archives privées,
Frédéric Genevet,
devaient avoir les mêmes règles de communication que les archives publiques. Or, à cette date-là, on était sur la loi de 79, donc en gros, c'est une loi qui a fixé des délais d'ouverture et d'accessibilité pour les archives publiques, selon la nature des documents. Donc, par exemple, pour tout ce qui était dossier médical, c'était 120 ans, tout ce qui était état civil, je crois que c'était 100 ans, et quand c'était des archives d'une institution publique, les archives de fonctionnement, c'était 30 ans. Et la loi de 2008, grosso modo, je rentre pas dans les détails, dans les quelques polémiques, a réduit ces délais à 25 ans. Donc, on s'est calqué sur ce modèle-là. Parce que c'était très important au moment de l'ouverture de montrer qu'il n'y avait pas d'arbitraire dans la communication, dans l'ouverture, dans la communication des archives. Parce qu'il y a toujours un soupçon. Est-ce que finalement le Parti communiste ouvre toutes ses archives ? Est-ce que tout est véritablement accessible ? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont plus accès que d'autres ? Donc, il fallait fixer des règles. Pour des archives privées, on aurait pu faire ce qu'on voulait. Il n'y a aucune obligation, mais donc se calquer sur les archives publiques donnait de la crédibilité à la démarche. Et puis, une chose très importante, c'est qu'en matière archivistique, et ça vaut pour les archives du Parti communiste, mais ça vaut pour toutes les archives, on ne communique pas des archives dont on n'a pas fait les inventaires. C'est une règle centrale en archivistique. Et donc, quand il y a eu ouverture des archives en 1993, il n'y avait pas d'inventaire. Donc, on annonçait, enfin, Georges Marchais annonçait à la fois une ouverture, mais l'ouverture pouvait pas se faire en réalité parce qu'il y avait pas d'inventaire. Pratiquement pas. Et donc, il a fallu dégager des moyens. C'est une des raisons qui a conduit le Parti communiste à faire classer ses archives par l'État. C'est-à-dire classer, ça veut dire reconnaître comme patrimoine national. Donc ça, c'est en 2003. Donc c'est le seul cas de fonds d'archives politiques en France qui ont ce label de patrimoine national. Et une fois que ça a été obtenu, eh bien, on a pu discuter avec la direction des archives de France et avec les archives départementales de la Seine-Saint-Denis pour un dépôt quasi intégral des archives aux archives départementales et une discussion pour obtenir des moyens en personnel, de gens formés, de professionnels de l'archivistique qui ont commencé à faire ces inventaires pour pouvoir vraiment rendre accessibles les archives. La décision d'ouverture est prise à l'époque de Georges Marchais en 1993. Et là aussi, c'est comme toujours, c'est en histoire, il y a plusieurs causes. Donc il y a une cause importante, c'est évidemment que après la fin de l'URSS, les archives de l'Internationale communiste qui sont à Moscou et dans laquelle se trouvaient des archives du PCF pour la période 1920-1943 sont ouvertes aux chercheurs. Donc il y a des archives qui surgissent. Et puis par ailleurs, depuis des années, à l'intérieur du Parti communiste, il y a une réflexion qui va pas sans tension sur l'ouverture des archives. Donc dans les années 70, vous avez un ensemble d'historiens, de jeunes historiens d'ailleurs, communistes, qui vont essayer de faire ouvrir les archives pour pouvoir travailler en historien. À côté de tout ça, vous avez, depuis le début des années 70, un grand centre de documentation, place du colonel Fabien, qui sert à l'activité politique du Parti communiste au quotidien, mais qui ramasse aussi un ensemble de documents. Et donc, au tout début des années 80, il y a des velléités de refermeture des archives. Ces jeunes historiens communistes se battent pour la réouverture. Et puis finalement, avec ce qui se passe en Union soviétique, Gorbatchev, la glasnost, la perestroïka, 93, la décision est prise d'ouvrir les archives à tout le monde.
Quand je suis arrivé aux archives départementales, on commençait à traiter l'année 1977, mon année de naissance. L'objectif était à ce moment-là vraiment, le choix qui avait été fait, notamment pour cette période, était vraiment d'avoir une personne, un archiviste, qui restait en permanence pour écouter l'ensemble des enregistrements, s'assurer qu'il n'y ait pas de problème technique, et donc pendant toute cette période, également, de faire cette description intellectuelle. On parle de traitement intellectuel des archives au sens où on va être là en tant qu'archiviste confronté à une question: combien de temps nous pouvons passer à écouter un document, et surtout jusqu'où allons-nous le décrire pour le rendre accessible et intelligible auprès des chercheurs ou de toute personne qui voudrait accéder à l'information, mais en même temps en considérant que le traitement de cet ensemble d'archives n'est qu'un fond, qu'un ensemble parmi d'autres archives à traiter. Donc combien de temps nous on peut y consacrer? Aujourd'hui, la description intellectuelle va consister à avoir une capacité à réécouter de manière succincte et à résumer un propos, et peut-être à utiliser après d'autres outils de description tels que l'indexation pour donner des clés d'accès simple et être en capacité surtout de redonner l'essentiel d'un échange ou en tout cas d'une archive sans consacrer 6 heures d'écoute, par exemple, pour un document de 6 heures.
C'est là qu'on comprend en fait le lien fondamental entre les historiens, historiennes et les archivistes.
Zoé Grimbert, historienne.
Sans leur travail, c'est-à-dire que sans leur travail d'indexation, de description, d'explication, ou parfois même le fait qu'ils viennent nous voir en salle de lecture, qu'ils nous expliquent le fonctionnement d'un fonds. Sans ça, on perd énormément de temps. Et typiquement, là, pour cette série, c'est Pierre Boischu qui connaissait cette archive, qui m'en a parlé, qui m'a dit que ça pouvait m'intéresser. Et c'est sa connaissance très fine de ces archives qui a fait avancer mon propre travail. On voit vraiment, je pense, la dimension humaine. C'est un travail à plusieurs, qui implique plusieurs professions et qui implique des rapports humains qui sont très précieux.
On a eu la chance à l'Université de Bourgogne de participer dès le début
Jean Vigreux.
Au classement, à l'inventaire, mais aussi aux logiques de numérisation et d'indexation de ces archives. Tout ça, ça a été mis en ligne, inventorié et indexé à la pièce. Et aujourd'hui, c'est gratuit, c'est accessible. Ça s'appelle Pandore, le portail d'archives numériques de documentation et de recherche de la Maison des sciences de l'homme de Dijon. Et tout chercheur, ou même tout citoyen, féru de cette histoire, peut avoir accès à ces archives. Au tout début, on faisait ça sous des logiciels classiques, Excel, enfin, des choses de ce style. On a créé des bases de données sous 4D au début des années 90-2000. Les bases de données 4D, c'est tout simplement l'utilisation d'un logiciel qui s'appelait 4D à l'époque, qui a été développé ensuite et qui permet de faire un lien entre un inventaire classique type Excel et puis aussi des archives qui sont numérisées, c'est-à-dire qu'on relie l'inventaire à l'image numérisée. Et aujourd'hui, avec les possibilités que l'on a de recherche, même sur des images, même sur des choses numériques, on peut retrouver des mots-clés, on peut retrouver sur Pandore ce que l'on veut. Par exemple, on prend Marty, Tillon pour les grandes affaires, on retrouve tout est en ligne, tout est accessible. Et ça, me semble-t-il, ça a été important dans une volonté d'ouverture des archives et de sortir peut-être d'une culture du secret, en particulier celle que l'on peut retrouver avec les enregistrements sonores, puisque les comités centraux, c'était à huis clos. Ce n'était pas quelque chose qui était fait pour être diffusé. Au contraire, c'était en interne, en intra. Et ça, c'est important, me semble-t-il, cette volonté de sortir du secret.
Est-ce qu'il y a des propositions ? Remarque. Il n'y en a pas. Bien, tordant, n'est-ce pas ? C'est une chose de phrase.
Merci aux archivistes Pierre Boichu, Aurélien Dur et à toute l'équipe des archives départementales de Seine-Saint-Denis. Merci aux historiennes et historiens Zoé Grimbert, Frédéric Genevet et Jean Vigreux. Et comme toujours, merci à Aliette Ovin pour son soutien indispensable.
Alors, le deuxièmement de ce point A, qui comprend la fin de la page 2 et le début
prise
de la
son,
page 3,
Martin Troadec, Virginie Lorda, Romain Lenoir et Stéphane Touvenant.
Il y en a une.
Mixage, Antoine Viossa. Archivina, Christelle Rousseau. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin.
On avait demandé des amendements par écrit.
Oui.
C'était Les Voix du PCF, archives sonores du communisme français. Première partie. Un documentaire d'Anne Toscan-Diudès, réalisé par Anne Fleury.
Il n'y a plus d'observation. Georges, pardon. Allez, Bartolini. Alors nous pouvons poursuivre dans ces conditions. Alors nous passons au paragraphe. C'est bien le paragraphe 3 du deuxième mot. Est-ce qu'il y a encore des observations ? Georges.
Oui.
Bien. Est-ce que le camarade Bartolini a assiste ?
Je dis que la France est en idée.
Est-ce que tu as
assiste ?
Oui.
Je ne sais pas ce camarade Minet, il m'a décoché un argument à dominer. En parlant de